Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Alors je vous fais partager du coup les salutations des chrétiens de Marignane, la Nouvelle Arche, ainsi que toute l'équipe pastorale. Et en même temps je vous remercie de bien vouloir m'accueillir et je remercie aussi du coup votre pasteur et aussi vos anciens qui m'ont chaleureusement accueilli ce matin. Sans plus tarder, voici le thème de ma prédication. Que veux-tu offrir à ton Dieu ? Que veux-tu offrir à ton Dieu ? C'est vrai que ce n'est pas Noël, mais est-ce que tout le monde aime recevoir des petites attentions ? Moi, en tout cas, j'aime bien recevoir des petits cadeaux, en dehors de mon anniversaire, en dehors de Noël. Est-ce qu'on doit forcément attendre Noël ou les anniversaires pour faire des cadeaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas faire un cadeau supplémentaire à notre Dieu ? Finalement, lui, il nous fait des cadeaux tous les jours, n'est-ce pas ? Ça me fait penser, moi, je sais que ma femme, parfois, quand elle m'offre un cadeau, elle me dit « Tu sais, c'est un cadeau pour toi, mais c'est aussi un cadeau pour moi parce que j'aime bien quand tu portes ce vêtement, j'aime bien quand tu portes aussi cette paire de chaussures et ça me fait plaisir. » Et ça me fait penser aussi, les parents, des fois, vous aimez bien offrir ce genre de cadeau à vos enfants. Quand arrive l'été, vous donnez un cahier d'exercice, n'est-ce pas ? Qui a connu ça ? Hein ? Un cahier d'exercice. « Ah tiens, regarde, je t'ai trouvé un cadeau. » Les enfants, ils sont contents. Quand nous offrons un cadeau, est-ce que nous devons offrir un cadeau qui nous plaît ou un cadeau qui plaît à la personne qui est concernée ? Que veux-tu offrir à ton Dieu ? Et du coup, nous allons trouver des réponses dans l'Évangile selon Marc au chapitre 12 et au verset 28. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez lire à côté de la personne qui est à côté de vous. En général, les personnes sont sympas dans les églises. Évangile selon Marc au chapitre 12 et au verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ce sont les deux plus grands commandements que Jésus nous présente. Du coup, on pourrait très bien se dire que c'est ce que Dieu attend de nous, pour que nous puissions lui plaire. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton intelligence. Si nous aimons Dieu de cette façon, je pense que notre amour pour lui deviendra le seul et unique mobile de notre motivation pour lui, de nos actions, de notre vie avec lui, l'essence même de notre service, la raison même de nos projets pour Dieu. Et pour vivre cet amour, je pense qu'il faut avoir une relation étroite avec lui. J'aime bien ce mot. Une relation étroite avec notre Dieu, une relation de qualité. Alors c'est vrai que si je pose la question peut-être à certains, est-ce que tu connais Jésus ce matin ? Certains diront, ben, je suis baptisé depuis un certain nombre d'années, je connais Dieu. Mais j'aimerais pousser la réflexion plus loin. Est-ce que tu connais bien Jésus ? Est-ce que tu connais vraiment ce qui lui plaît ? Il y a des hommes, par exemple, qui ne sont pas du tout romantiques, qui offrent très peu de fleurs à leurs femmes, et peut-être que ça leur convient, parce que finalement elles sont économes, ou alors elles sont focalisées sur autre chose. Mais si, messieurs, votre femme aimerait que vous puissiez lui faire peut-être des sorties au resto, une petite attention de temps en temps, le petit déjeuner le matin, n'est-ce pas ? Offrir une rose. Si vous ne le faites pas, vous allez finalement la frustrer. Une relation ne dépend pas que d'une seule personnalité. Elle dépend des deux. Alors je m'explique. Dieu est en quelque sorte, on peut dire entre guillemets, romantique. Il aime que tu puisses dépenser de ton temps, de ton argent, que tu puisses lui montrer à quel point tu l'aimes dans ta louange, aussi quand tu le pries. Il aime que tu sois obéissant, que tu sois bon et que tu sois soumis. Et là, j'aimerais faire une petite aparté. Ça me fait penser à la prédication de vendredi que j'ai faite à Marignane. À un moment, je parlais justement de ces personnes qui ne sont pas soumises dans leur caractère parce que finalement, elles ne veulent pas changer de caractère. Elles disent « Oui, mais moi, je suis comme ça. » Et quand notamment, on parle des personnes qui sont gentilles alors que finalement, elle s'énerve facilement. Vous connaissez ces personnes-là ? Ah, tu sais, lui, il est gentil, mais bon, il faut faire attention à ce qu'on lui dit, hein, parce qu'il s'énerve facilement. Tu sais, c'est un sanguin. Lui, attention, il peut très vite monter dans les tours, hein, mais il est gentil. Mais en fait, il n'est pas gentil. S'il s'énerve facilement, n'est pas une personne gentille. Il faut se laisser façonner par Dieu. Alors si on ne répond pas à ses attentes dans notre relation avec Dieu, nous pouvons peut-être l'attrister et peut-être même le frustrer, entre guillemets. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, mes frères et sœurs, connais ton Dieu et tu lui plairas. J'appuie ceci en disant, il faut donner de l'intérêt à notre Dieu. Est-ce que tu donnes de l'intérêt à ton Dieu? Est-ce qu'il est toujours à la première place? Est-ce qu'il a la priorité? Quand tu as un choix difficile à faire, est-ce que quand tu fais un tableau et que tu mets les pour d'un côté et les contre de l'autre, quand tu mets justement les choses en rapport avec Dieu, que ce soit dans les pour ou dans les contre, est-ce que ce sont ces choses-là qui prennent la priorité? Est-ce que ce sont ces choses-là qui prennent le dessus? Quand je lis « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force », moi personnellement j'y vois la prière. Ça me fait penser à ce verset dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances. Rendez grâce, car elle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. » Ne jamais oublier de prier sans cesse. Amen. Dernièrement, je faisais une étude sur les prières de Jésus et je me suis rendu compte à quel point Jésus priait énormément. Jésus avait l'habitude de se retirer de la foule pour prier, même de se mettre à l'écart de ses disciples pour prier. Alors, suivons son exemple, prions sans cesse. Cependant, ne faites pas un monologue, ne commencez pas à avoir une discussion à unissance. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce moment-là. Incluez Dieu dans votre moment de prière, parce qu'il est là, il est au milieu de vous. Il veut que justement, il veut prier avec vous, il vous entend, il vous répond. Peut-être ne passez pas forcément à côté d'une parole que Dieu a pour vous. Des fois, on néglige un petit peu ces moments-là. Ah Seigneur, tu vois, j'ai pas trop le temps, donc allez, je vais lire mes 3 chapitres, parce que je lis 3 chapitres par jour. Allez, 1, 2, on va aller dans Psaume, parce qu'il y en a qui sont pas très longs. 2 et 3, ensuite on va prier. Alors Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela. Et puis, bon, je vais prier pour un tel, et puis je prie pour moi. Merci Seigneur, amen. Est-ce que finalement on a eu le temps d'entendre quelque chose de la part de Dieu? Est-ce qu'on a eu le temps de recevoir quelque chose de lui? Aussi, quand on prie, soyons en accord avec Dieu. Je pense peut-être à un jeune qui prie et qui dit « Seigneur, tu vois, ma petite sœur, elle fait que m'embêter. Tout le temps, elle prend mes affaires. Tout le temps, elle dérange ma chambre, fait en sorte que ma mère l'envoie à l'internat. » Wow, c'est pas sympa. Ou alors peut-être, Seigneur, tu vois mon voisin avec son arbre, toujours ses feuilles, elles viennent dans mon jardin, et puis ça va dans la piscine, et puis ça salit tout. Vous connaissez ces arbres-là, hein ? Seigneur, envoie la foudre sur son arbre. Waouh ! Je pense que dans certains cas, il est mieux qu'il n'y ait pas d'exaucement. Demandons toujours au Seigneur si notre prière est déjà dans la bonne direction. Dieu n'est pas non plus un supermarché où nous venons simplement pour nous servir. Moi, je prends ceci, moi, je prends cela. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Ne soyons pas forcément focalisés sur nous-mêmes. Regardons autour de nous. Parfois, ta propre guérison émotionnelle, elle vient lorsque tu pries peut-être pour les autres. Alors je m'explique. Peut-être que tu souffres à cause du poids, à cause du célibat, à cause de la solitude, d'une maladie. Et finalement, tu ne pries que pour toi, que pour toi, que pour toi. Et tu commences à broyer du noir, parce que tu ne vois pas la finalité des choses. Si tu commences peut-être à prier pour les autres et que tu commences à voir des exaucements, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension de la prière et tu verras ton Dieu agir différemment. La prière est aussi l'infusion de ton cœur face à ton Créateur. Ne dis pas que tu es trop timide ou que tu n'es pas capable, que tu n'es pas instruit assez dans les choses de Dieu. Ne cherche peut-être même pas des excuses à dire « Tu sais, moi, j'aime pas trop prier devant les autres. » La prière, c'est quelque chose qui vient de nous. C'est simplement notre cœur qui parle. Vous savez, Dieu, jamais il ne va mépriser votre prière, même si elle est petite, même si elle est longue, même si vous pensez, mince, peut-être que d'autres vont me regarder bizarrement parce que j'ai bafouillé, parce que je n'ai pas dit correctement. Lui, jamais il ne va mépriser votre prière. Au contraire, il sera toujours content. La prière est une arme aussi. Une arme qui nous a été donnée. Et comme toute arme et comme tout outil, nous devons apprendre à l'utiliser. Parce que parfois nous serons amenés à l'utiliser lors de combats dans la prière. Est-ce que ce matin, tu ne pourrais pas offrir cela en cadeau à ton Dieu? Une prière qui lui est agréable. Avoir des moments de qualité dans la prière. Mettre toute ta force dans la prière. Lorsque on lit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme », personnellement j'y vois la sainteté. dans 1 Thessaloniciens, toujours au chapitre 4, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors premièrement, c'est la nature et la qualité fondamentale de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit, la sainteté. Ensuite, deuxièmement, c'est une vertu indispensable pour tout croyant authentique. Et troisièmement, nous pouvons voir dans l'Ancien Testament que c'est un attribut de certains lieux, de certains objets, de certains jours et même de certaines actions. Et si nous nous amusons un petit peu à traduire ce mot en hébreu, nous pouvons obtenir le mot kadosh, qui veut dire pur physiquement, moralement, spirituellement. Et nous pouvons aussi le traduire par le mot séparé. J'aime bien ce mot, séparé. Quand nous sommes saints, nous sommes séparés de toute souillure. Nous sommes séparés des ténèbres. Nous sommes séparés du péché. Et dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver aussi ce mot pur, sans tache, sans péché, sans ride, sans mauvaise pensée, sans mensonge, sans jalousie, sans orgueil, sans colère. Dieu ne supporte pas le péché, mais il aime le pécheur. Alors il veut que tu puisses le fuir autant que possible, mais il aime le pécheur avant tout. Souvenez-vous de Pierre, qui a renié par 3 fois Jésus. Souvent on parle de Judas, mais Pierre aussi l'a renié. Par 3 fois. Et même il a menti. Non, je ne le connais pas. Et pourtant, Jésus lui a dit, tu t'occuperas de mes brebis. Que le péché ne s'installe jamais dans vos vies, bien sûr. Veillez, priez pour ça. Parce que finalement, on se retrouve dans une situation délicate à laquelle on n'aurait jamais pensé. Et puis, ça va tellement vite, et finalement, on se voit de l'extérieur. Et on se dit, comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour arriver dans un lieu si minable? Comment j'ai fait pour être dans un état si lamentable? J'invite bien sûr à ne pas être dans la culpabilité ce matin, mais à être dans la motivation, parce que nous avons un Dieu miséricordieux. Amen. Dieu reste ton Dieu. C'est vrai, peut-être que tu as péché, tu lui déplais, mais Dieu reste ton Dieu, il continue à t'aimer. Alors, peut-être que c'est vrai, il y a quelque chose qui est cassé dans votre relation parce que tu as péché. Ce n'est pas de sa faute à lui, c'est de ta faute à toi. Mais si tu décides de marcher dans la sainteté ce matin, si tu décides peut-être de recoller les morceaux avec lui, sache qu'il va t'accueillir avec ses bras d'amour. Ce qui pourrait plaire à ton Dieu ce matin, c'est que tu puisses mettre toute ton âme dans la sanctification. Rendre des sentiments sains, que autour de toi, on puisse dire, tu vois ce gars-là, tu vois cette femme-là, elle sent bon Jésus. Tu vois ce frère, tu vois cette sœur, elle a ce caractère de la sainteté de notre Sauveur. Amen. Quand je lis aussi, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, j'y vois l'amour à travers la louange. Nous avons dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. » Qu'est-ce que la louange finalement, à votre avis? Qu'est-ce que la louange? Si là aussi on s'amuse un petit peu à chercher des mots en hébreu et en grec, déjà, nous voyons que notre vocabulaire est bien faible face à la surabondance de termes et de nuances multiples que nous pouvons trouver dans la Bible. Nous avons par exemple en hébreu « yelel », faire du bruit, « romam », élévation, chant de louange. Certains mots même font référence à des gestes. Nous avons le mot « barak », ployer les genoux, qui veut dire aussi louange. Finalement, la louange, c'est une réponse tout à fait normale face à notre Créateur, face à la générosité de notre Dieu. Quand nous le louons, nous le remercions pour son amour, pour la révélation de son Fils, pour le salut, pour le sacrifice de Jésus sur la croix, pour nos péchés, pour l'action de Dieu dans nos vies, mais même aussi pour nos difficultés. Nous le louons aussi dans les épreuves. N'oublions jamais aussi qu'un jour nous pourrons louer avec le roi des rois pour l'éternité. Je pense que de partout, nous pouvons rentrer dans une nouvelle dimension de louange. La louange n'est pas là pour meubler le culte. C'est un sacrifice qui vient de nous. Dans ces moments-là, il ne faut pas attendre Dieu. Parfois, on se dit, on attend que Dieu nous amène dans la louange. La louange, c'est un don de soi. C'est à nous de rentrer dans la louange pour Dieu. N'attendons pas non plus les autres. Ne commençons pas à regarder, tiens, un tel est debout, un tel lève les mains, un tel est assis, un tel fait cela. Non. Faisons un cœur à cœur avec Dieu. Que nous puissions nous mettre tous d'un cœur à cœur avec Dieu, dans la louange, pour qu'il puisse recevoir un parfum doux et agréable de la part de son peuple. Enfin, j'aimerais parler du pardon. Aime le Seigneur de toute ta pensée. Est-ce que tes pensées sont pleines d'amertume ce matin? Est-ce qu'elles sont focalisées tout le temps sur le négatif? Le mauvais côté des personnes? Leur mauvais caractère? Le mauvais côté des choses? Ou alors peut-être que tes pensées sont focalisées sur le positif? Toujours tu vois les bontés du Seigneur pour toi. Tu pardonnes toujours aux autres. Dans Matthieu 18, alors Pierre s'approcha et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Et Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » La source du pardon est seulement en Dieu. Et c'est pour cela que les Juifs, justement, pointaient du doigt Jésus parce que ils pensaient qu'il blasphémait parce que, justement, il pardonnait les péchés des hommes. Ne jamais entretenir de mauvaises pensées contre son frère ou sa sœur. Ne jamais avoir des pensées de jalousie, des pensées d'envie. Parce que n'oublions jamais que ceci est un péché et que c'est à nous de le régler avec notre Dieu et que ce n'est pas sa faute à lui. Est-ce que ce matin, tu ne veux pas pardonner à quelqu'un? Est-ce que tu ne voudrais pas peut-être offrir ce pardon à ton Seigneur? Est-ce que tu ne pourrais pas faire ça pour lui? Peut-être qu'à travers cela, le Seigneur, il veut t'apprendre quelque chose déjà premièrement sur toi-même, peut-être sur la personne qui est concernée, et peut-être même que tu pourrais découvrir une nouvelle facette de la personnalité de ton Dieu. Maintenant, nous avons la deuxième partie de notre verset. Tu aimeras ton prochain. Qui est notre prochain? En premier, notre prochain, c'est notre ennemi. La personne qu'on apprécie le moins, peut-être même une personne que l'on méprise intérieurement, une personne qui nous a blessés. Et la Bible nous dit, tu aimeras ton prochain et aimer vos ennemis. Ce matin, si tu veux plaire à ton Dieu, je crois que tu peux offrir cela aussi. Si tu commences à aimer tes ennemis, tu pourras voir justement que le Seigneur peut rétablir certaines relations. Des fois, tu te dis, mais c'est impossible avec un tel. C'est pas possible avec lui. Je pense que si on pense comme ça, on limite un petit peu l'action de Dieu dans notre vie. Parce qu'il est maître de toute situation. Alors je crois que c'est justement, nous avons la foi là-dedans. Nous avons la foi justement que le Seigneur peut réparer les situations, il peut réparer les relations brisées. Nous pouvons voir des miracles aussi là-dedans. Dans l'épître de Jacques, lorsqu'il est question du prochain, on parle du pauvre qui est rentré pour la première fois dans une église. Alors ton prochain, c'est donc la personne qui n'est pas chrétienne. Toute origine, tout rang social, toute religion confondue. Alors ton prochain, c'est aussi, on en a entendu parler dernièrement, c'est peut-être un gilet jaune, peut-être que c'est un SDF, un cadre d'entreprise, un artisan, un ingénieur, un catholique, un bouddhiste, un orthodoxe, un musulman. Peut-être que c'est aussi un dealer, un escroc, un témoin de Jéhovah, un prostitué, un noir, un blanc, un jaune, un bleu. Un rouge, peu importe. Le message de la bonne nouvelle est pour toutes ces personnes. Et personnellement, je crois que si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons proclamer son nom un maximum à toutes ces personnes qui ne le connaissent pas, je suis sûr que le Seigneur va se révéler à leur cœur. Elles vont venir une fois à l'église et elles vont être touchées par le message de l'évangile. Ensuite, elles vont vouloir revenir une seconde fois. Elles vont vouloir revenir encore une troisième fois. Ensuite, elles vont vouloir venir le dimanche. Ensuite, elles vont donner leur cœur au Seigneur. Ensuite, elles vont vouloir faire partie de ces futurs baptisés. Amen. Et ensuite, c'est elles qui iront chercher des personnes comme elles étaient avant. Et c'est comme ça qu'on pourra vivre la multiplication. C'est comme ça qu'on pourra justement peut-être pousser les murs de cette église. Qui croit qu'à l'église d'Istres, à un moment, vous allez devoir pousser les murs, peut-être même changer de local? Amen. Il n'y a pas beaucoup de mains qui sont levées. Hein. Ton prochain, c'est aussi ton frère et ta sœur en Christ. L'apôtre Paul nous appelle dans la lettre aux Colossiens à nous supporter les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il y a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Apprenons à nous aimer. Nous sommes une grande famille et personnellement, moi, je me sens en famille ici. Merci encore beaucoup pour votre accueil. Et c'est vrai que nous avons des caractères bien différents. Nous avons même des manières de penser qui sont différentes. Mais je ne sais pas si vous savez, sur une rose, chaque pétale est différente. Chaque pétale est unique. Et pourtant, quand on les assemble tout ensemble, ça nous donne une fleur magnifique, n'est-ce pas? Alors nous aussi, nous sommes différents, mais nous formons une famille magnifique. Et merci Seigneur pour cette église. Merci Seigneur. Pour les jeunes et peut-être pour les ados, ton prochain, c'est aussi tes parents avec qui tu as des soucis. Tu ne les supportes pas, tu as du mal à les écouter. Et tu te dis, Seigneur, j'ai du mal. Mais c'est aussi ton prochain. Et puis, il y a ce verset aussi qui dit, honore ton père et ta mère. Donc si tu veux faire plaisir à Jésus ce matin, sois bon envers les autres. Que tu puisses aimer ton prochain comme toi-même. Que tu puisses mettre toute ta force dans la prière. Que tu puisses mettre toute ton âme dans la sanctification. Que tu puisses mettre toutes tes pensées dans la sanctification. Que tu puisses mettre toute ton âme dans la louange. Et toutes tes pensées, qu'elles soient focalisées tout le temps sur le Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, je mets vraiment du temps à offrir un cadeau à quelqu'un. On réfléchit beaucoup, on se dit déjà il faut trouver le cadeau. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le cadeau, parfois il faut choisir la couleur, parfois il faut choisir la taille. On se dit est-ce que je vais prendre ça, est-ce que je vais prendre ceci, est-ce que je vais prendre cela, je ne sais pas du tout. Et parfois même certains, il y en a qui prient, ils disent Seigneur s'il te plaît, fais en sorte que ça puisse plaire à la personne. Et on se prend littéralement la tête pour trouver un cadeau qui plaît à la personne concernée. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses te prendre la tête pour trouver un cadeau à ton Dieu. Que tu ne pries pas dans cette direction en disant « Seigneur, s'il te plaît, mets sur mon chemin ». Non, que tu puisses chercher, que tu puisses prier, réfléchis, va, agis et offre un cadeau qui plaît à ton Dieu. Plaire à Dieu, c'est vrai, c'est une action de tous les jours. Une action du quotidien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas offrir quelque chose de plus? Peut-être que justement, en offrant ce cadeau, tu pourras peut-être grandir dans ta relation avec Dieu. Ça pourrait peut-être même faire quelque chose, un bond en avant pour toi. Peut-être même que tu pourrais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Peut-être même que tu pourrais recevoir les dons de l'Esprit. Alors si tu veux plaire à ton Dieu, peut-être qu'aujourd'hui tu pourrais t'occuper d'une personne seule. Peut-être que tu pourrais faire du bénévolat, payer le resto à quelqu'un, au pasteur de passage par exemple. Non, je rigole, bien sûr, ne faites pas ça. Écrire à une personne qui ne vient plus à l'église. Passer un coup de téléphone. Qu'est-ce que c'est passer un coup de téléphone? Donner à celui qui ne peut pas nous rendre. Faire quelque chose qui nous coûte finalement. C'est ça, plaire à Dieu. Faire quelque chose qui nous coûte. Et je pense maintenant à la personne qui vient peut-être pour la première fois et qui me dit « Mais moi, je n'ai pas vraiment de cadeau à offrir. » Moi déjà, je viens pour la première fois, je ne connais pas grand-chose. J'aimerais te dire, toi aussi, tu peux offrir un cadeau. Tu peux offrir ta vie. Tu peux demander pardon pour tes péchés. Tu peux accepter Jésus dans ta vie comme étant ton sauveur. Et ça peut être le plus beau cadeau que Jésus peut recevoir de ta part.